Un incroyable témoignage à présent dans À Voix Haute avec la militante et féministe turque Pinar Selek et son combat contre la justice de son pays.
Rien ne semble arrêter Pinar Selek, ni l'exil, ni la menace de la prison dans son pays, la Turquie. C'est une femme aux mille vies avec une force incroyable dans ses luttes politiques et sociales. La militante féministe résiste malgré l'acharnement de la justice turque depuis 24 ans, rencontre avec une rebelle courageuse qui se bat contre toutes les dominations et la répression qui ronge son pays.
À voix haute,
Pinar Selek,
Manuela Salvi.
Bonjour Pinar Selek.
Bonjour.
Je vais prononcer à la française, ça vous va?
Oui, je suis habituée.
Est-ce que vous êtes une arpenteuse de lutte? Est-ce une synthèse acceptable de votre parcours de vie?
Ah, ça je ne sais pas. Arpenteuse de lutte, c'est joli, je trouve. Je n'avais pas pensé avant. C'est vrai que j'essaie d'être cohérente avec mes rêves, avec mon amour de la liberté. Et j'essaie de prendre en compte tous les différents problèmes, même qui sont loin de moi. Donc j'essaie de voir le monde avec sa complexité et de situer mes luttes sur ces complexités aussi. Voilà, donc j'arpente les luttes.
Arpenteuse depuis longtemps, militante infatigable, activiste franco-turque, vous enseignez à Nice à l'université Sophia Antipolis, écrivaine et sociologue engagée, et c'est cet engagement qui vous vaut depuis 24 ans, Pinar Selek, un harcèlement judiciaire pour un supposé attentat à Istanbul, c'était en 98, la police l'a confirmé au tribunal, c'était une fuite de gaz, vous avez été arrêté, torturé pour vos recherches sur les Kurdes, acquitté 4 fois pour ce supposé attentat. Nouvel appel en 2017, aujourd'hui condamné à perpétuité par la Cour suprême turque. Vous l'avez appris le 22 juin, vous êtes encore sous le choc.
Oui, je suis sous le choc et assez surprise, même si tout ce qui se passe en Turquie doit nous préparer à toutes les irrationalités. Mais je suis sous le choc parce que on n'attendait pas ça. Mon dernier acquittement est 2014, donc des années sont passées. Et après, on n'a pas eu la décision non plus.
Donc les avocats n'ont rien reçu?
Non. Et on a regardé, il y a seulement une agence anatolienne, Anadolu Agence, qui dit, selon ta journaliste, la Cour suprême de la cassation a voulu la condamnation de Pinar Selek. L'État n'a pas démenti et donc mes avocats ont fait une demande à la Cour suprême. Il n'y a pas de réponse. Et donc on a décidé de réagir assez rapidement parce qu'on ne sait pas comment ce que ça peut passer. On n'attendait pas ça.
Donc difficile d'élaborer une stratégie parce que vous n'avez pas encore reçu la décision de la Cour suprême. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas encore reçu une stratégie pour semer la confusion?
Vous savez, depuis 24 ans, je dois expliquer une chose illogique, irrationnelle. Je dois toujours
expliquer l'inexplicable.
Je dois expliquer, mais pourquoi c'est moi? Parce que c'est moi qui subis l'inexplicable et l'irrationnel, illogique, et c'est moi qui dois expliquer ça. Donc je ne sais pas, peut-être ça peut être une stratégie, parce qu'ils ont peur d'une grande réaction, donc ils rendent un peu flou. Le contexte, peut-être c'est une stratégie de communication, je ne sais pas.
24 ans que la justice turque vous harcèle. Est-ce que la peur aujourd'hui, plus que jamais, est votre compagne de route?
Oui, je ne peux pas dire que je n'ai pas peur. Moi, j'ai peur toute ma vie, même quand j'ai vécu dans les rues avec les enfants de rue, quand j'ai fait plein de choses, j'ai eu peur. Mais la peur ne me domine pas. Mais c'est très épuisant, juste je peux vous dire ça. Moi, je veux faire beaucoup d'autres choses et je fais beaucoup d'autres choses. Je suis dans plein de luttes, je suis dans plein de créations. Je ne veux pas que l'État détermine mon ordre de jour. C'est ma vie et la vie est très courte. Je veux le vivre en poésie, je veux le vivre en résistance et en liberté. Et je ne veux pas toujours parler de ce procès, expliquer à des gens quelque chose d'illogique que je ne comprends même pas. Et après, avoir peur des conséquences sur ma famille, sur moi, parce qu'il y a des menaces assez fortes.
Résistance, hein, Pinar Sedec, c'est aussi ce qui vous caractérise. En France, des associations se mobilisent au nom de justice pour Pinar Sedec. En Suisse, c'est Féministe Asylum qui manifeste sa solidarité. En Turquie, vous avez encore des soutiens après 10 ans d'exil?
Oui, en Turquie, il y a beaucoup de solidarité. Je pense que c'est très solide. Et parce qu'on partage les mêmes luttes. Et aussi, nous avons des convergences entre les différentes luttes. Et comme il y a plein d'autres personnes qui sont victimes de ce système de répression, il y a beaucoup de femmes, des députés, des mairesses. Surtout, ils visent beaucoup les femmes. Et ils les mettent en prison. Avant, il y avait toujours des femmes en prison, mais pas autant que ça. C'est vraiment une vraie politique de guerre que mène le gouvernement. Peut-être la peur du gouvernement est plus forte que le nôtre. Et je dis que on tient bon en même temps, parce que je vois les prisonnières, celles qui sont en exil, on tient bon, on est la tête en haut et on continue à dire la même critique et on donne l'espoir. Et cela fait trembler le gouvernement, à mon avis.
Rien ne semble vous arrêter, ni la prison où vous avez été torturé, ni l'exil forcé, ni cette condamnation à perpétuité de la Cour suprême en Turquie. Quelle est cette force qui vous anime ?
J'ai beaucoup de chance parce que je fais partie d'une génération. Moi, je suis née en 71, pour ne pas mentir. Donc, même si j'ai la tête de 20, non, je rigole. Donc, j'ai grandi dans les années, surtout 80, 90. Et c'était une période de la transformation de l'espace militant en Turquie. C'était une sorte de revitalisation politique. Et ça donne beaucoup de force et beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, beaucoup de découvertes. Chaque découverte vous amène à d'autres amitiés. Et vous imaginez, moi, j'étais dans une famille, ma sœur, elle avait un autre métier. Quand j'étais en prison, elle a quitté son métier, elle a refait ses études d'avocat, elle est devenue mon avocate. C'est cette histoire qui me donne la force, cette histoire qui continue à vivre, qui me donne la force.
Qui vous fait briller les yeux, non pas avec des larmes à cause de votre condamnation, mais de joie. Les militants turcs, hommes et femmes, continuent de se mobiliser en Turquie, vous l'avez dit, vous avez des soutiens. Avec quel risque quand ils bravent les interdictions de se réunir dans l'espace public, parce que le gouvernement souvent interdit tout simplement les réunions dans l'espace public?
Il interdit, mais aussi il peut vous accuser d'autre chose. Donc c'est ça le problème. C'est aléatoire, parce qu'ils utilisent maintenant les témoins secrets. Ils peuvent inventer des choses incroyables. Ils font tout pour que les gens se démobilisent.
Et se décourage. L'effet, effectivement, est dissuasif. Mais est-ce que c'est toute la société civile? Vous avez cité des avocats, vous avez cité des militants. Mais est-ce que c'est toute la société civile qui est dans la ligne de mire du gouvernement, ou des organisations plus particulièrement sont visées de manière plus forte?
Avant, je ne dis pas avant ce gouvernement. Je peux dire qu'avant 2013, à peu près, les répressions étaient plus ciblées. En général, on savait, donc si tu touches à la question kurde, si tu touches à la question arménienne, si tu fais des critiques sur l'histoire de la Turquie. Et donc, c'était assez ciblé. Maintenant, non. C'est ça qui fait peur tout le monde. Donc, malgré cette peur, il y a une mobilisation, mais c'est ça qui est différent que les autres gouvernements.
Les plus visés, ce sont des organisations féministes. Les femmes, vous revendiquez un féminisme ardent, passionné. Mais que peut le féminisme face à un tel déferlement de violence? En quoi, face à un péril démocratique, en quoi permet-il de faire évoluer la situation?
Alors, je peux vous répondre très longuement, mais parce qu'il y a plusieurs pistes de réponse, disons. En Turquie, le mouvement féministe a joué un rôle très important à montrer comment les femmes turques étaient otages de la République et comment elles étaient dans les vitrines avec les politiques d'égalité, parce que les femmes turques avaient eu plusieurs droits beaucoup avant que les Européens. Donc, le mouvement féministe a à la fois critiqué l'État et a ouvert la porte à un nouveau cycle de contestation, c'est-à-dire les mouvements LGBT, antimilitaristes, écologistes, donc qui a apporté plusieurs d'autres causes et qui a montré, c'est surtout ça, le lien entre le privé et la politique et le lien entre les différentes causes
Et donc le féminisme, au fond, a élargi en Turquie le champ du politique.
A élargi, a revitalisé, a multiplié les causes politiques. Et en Europe en général, ou dans le monde entier, c'est sûr et certain que l'extrême droite sait très bien que le privé est politique. C'est pour cela qu'ils visent les femmes, les corps de femmes, l'IVG, le mariage homosexuel. Mais pourquoi vous vous en parlez? Comment on fait l'amour? Avec quelle position? Mais non, l'extrême droite, il prend au sérieux ça. Parce que c'est très sûr, l'ordre politique s'appuie sur l'ordre social. Il faut un ordre social, une discipline sociale. Donc tout est lié. Et le féminisme montre ça.
Et vous plaidez, Pinar Selek, pour un travail de fourmi. Hein, vous citiez tout ce que vous avez fait en Turquie, notamment le travail avec les enfants des rues, avec les prostituées, avec les Kurdes. En quoi est-ce que c'est plus efficace que la colère dans la rue?
La colère, il ne faut pas la nier. Il faut exprimer aussi. Moi, je crois beaucoup au travail de fourmi. Aussi, je suis très influencée par la philosophie libertaire. Je ne crois pas à des changements qui viennent par le haut. Donc, pour moi, c'est toujours par le bas. Et comme il y a plusieurs causes, comme dans la nature, moi, je n'aime pas les champs de maïs. J'aime les jardins. Donc, il y a plein de couleurs, plein de différences. Il faut donner la liberté à s'exprimer, à créer ces différentes formes de vie dans la société, et il faut créer des liens entre tout ça. Il faut continuer au travail de fourmi. La patience est importante, mais si on continue, comme dans la chimie, oxygène, hydrogène se réunissent tout d'un coup, ça se transforme en eau.
Et ça crée du coup autre chose. Je ne voudrais pas d'une autre vie, dites-vous, Pinar Selek, dans l'Insolente, un livre paru en 2019, une biographie sous forme d'entretien. Et pourtant, vous pourriez en rêver d'une autre vie, vu les obstacles et les épreuves traversées. Alors, si pas une autre vie, quoi?
Je rêve un autre monde.
Lutter pour ça.
Oui, ou dans lequel je ne perdrai pas le temps de discuter de tout ça. On pouvait vraiment parler d'autre chose, des étoiles, des secrets de le monde, des couleurs, je ne sais pas. Mais...
Vous êtes une poète, hein, vous le revendiquez, Pinar Selek.
Ah oui, oui. Même si j'écris plus les romans, les essais, les contes, je suis une poète à la base. Et je crois beaucoup à la poésie de la vie. Donc je veux vraiment vivre la poésie.
Militante de la poésie. Istanbul, votre ville, là où vous êtes née, pour vous, elle est désormais plutôt ville interdite. Dans La Maison du Bosphore, hein, votre premier roman en 2013, vous racontez votre Istanbul. Est-ce aujourd'hui par l'imagination que vous êtes condamnée à y retourner? Seulement par l'imagination?
Non, Istanbul m'avait suivi. Parce que quand vous allez quelque part, l'espace dans lequel vous avez grandi fait partie de vous. Et vous faites partie de lui, d'elle. Et quand vous partez, elle vous accompagne. Donc Istanbul m'accompagnait. Et Istanbul se voyageait avec moi. Et tout le monde a dit qu'Istanbul était un personnage dans le livre.
Et non, pas seulement un décor. Vous avez écrit un autre livre, Pinar Selek, Azucena ou les fourmis zinzines.
Oui.
Fofolles.
Des fofolles. Non, ce n'est pas des fourmis de la fontaine qui travaillent et qui boudent. Je ne pense pas que les fourmis boudent, c'est juste une imaginaire.
Qui sait?
C'est une imagination humaine. Et vous savez, ce roman passe à Nice.
Là où vous habitez, où vous êtes en exil depuis 10 ans.
Oui, et les premières réactions, donc ça vient d'être publié, et ils disent que Nice, c'est un personnage. Donc j'ai deux personnages, Istanbul et Nice. Et je ne veux pas quitter ni l'un ni l'autre.
Vous portez les deux en vous. Le mot espoir, est-ce qu'il a encore un sens pour vous?
Oui, je parle dans La Maison du Bosphore, une demi-espoir. À la fois voir la réalité et les difficultés, mais à la fois agir. Mais depuis une année, je pense, donc je suis en train d'écrire une petite journal et je dis que je me sentais même trop optimiste, surtout par rapport à la Turquie. Par rapport au négationnisme, par rapport à toute l'idéologie dominante, nationalisme, militariste, tout ça. Même si je disais que le pessimisme ne me décourage pas, ne me immobilise pas, j'écris ça dans le livre. Mais aujourd'hui, je dis, mais Pinar, t'as pas fini vraiment ta déconstruction. Parce que quand même, tu croyais que c'était un rhume, que ce pays pourrait guérir avec un peu de miel et avec un peu de citron. C'est pas vrai, c'est un vrai cancer, même un cancer pour le monde. Donc le pessimisme de l'intelligence, il faut pas le sous-estimer. j'étais plus tournée vers l'optimisme de la volonté. Et il ne faut jamais oublier qu'il faut lier les deux.
Ne pas lâcher jamais, c'est bien votre moteur, Pinard Sélec. Belle leçon de militantisme, c'est important de s'engager là où on vit. En l'occurrence, pour vous, c'est en France. Et à Nice, qui est un personnage de votre dernier roman aux éditions, on ne l'a pas dit, édition des femmes, Antoinette Foulque. Merci infiniment, Pinard Sélec.
Merci à vous.